BFM Business, midi, l'heure H. Présenté par Edwige Chevrillon.
Bonjour à tous, bienvenue dans leur H. On parlera de la transformation numérique. Pourquoi fait-elle si peur? Quel nouveau contrat social faut-il dresser? On en parlera avec Nicolas Collin, vous le connaissez bien, c'est le fondateur de The Family, ce société d'investissement et think tank aussi, qui veut développer un écosystème européen qui accompagne vraiment les entrepreneurs. Nicolas Collin, qui est inspecteur des finances, donc avec lui, je reviendrai aussi sur la réforme de la haute fonction publique. On en parlera dans un instant avec mon invité qui est déjà en studio avec nous, Fabien Taster, qui est le président de l'Association des hauts fonctionnaires territoriaux. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. C'est on viendra donc sur ce fameux rapport avec l'ENA qui se transforme en EMA, plus de mixité, la fin de des classements. Vous me direz si c'est une bonne chose ou pas. Et puis je recevrai Marc Tonon. Marc Tonon, il est le directeur général de Bureau Export. C'est lui qui promeut la musique française à l'étranger et vous allez voir, ça cartonne. Mais pour l'instant, je dirais que ce sont les femmes qui cartonnent. Ça tombe bien, il y a Audrey Maubert qui est avec nous pour nous présenter toute l'actualité. Bonjour Audrey.
Bonjour Edwige, bonjour à tous. Pékin réfléchit à de nouvelles mesures de soutien à l'économie chinoise fragilisée par l'épidémie de coronavirus. Selon Bloomberg, Pékin songe à de nouvelles injections de liquidités ou des rapprochements parmi les compagnies aériennes plombées par l'épidémie. Une épidémie dont le bilan a franchi le seuil des 2000 morts en Chine et plus de 74 000 personnes infectées. Parmi les effets désormais mesurés, Adidas a vu ses ventes en Chine reculer de 85% sur un an depuis fin janvier. De nombreux magasins y sont fermés. L'industrie automobile, elle, en première ligne, eh bien Jaguar Land Rover a lui été contraint d'importer par avion dans des valises des pièces détachées de Chine afin de contourner les problèmes d'approvisionnement. Renault, sous pression, suivra le titre en séance aujourd'hui dans les plus fortes baisses après la dégradation de Moody's. S&P envisage de rétrograder la note de Renault en catégorie spéculative. Ce n'est pas la première fois que pèse sur Renault cette crainte de liquidité. Atos sanctionné également après la publication d'un bénéfice d'exploitation annuel inférieur aux attentes, un chiffre d'affaires de plus de 11 milliards d'euros en 2019 en croissance organique de 1,4% avec une marge opérationnelle en hausse mais en deçà des attentes. Atos vise un chiffre d'affaires en croissance organique de 2% cette année. Deutsche Telekom et des résultats records cette fois en 2019, un bénéfice net en hausse de 80% stimulé par les activités de sa filiale américaine T-Mobile. Elle a récemment reçu le feu vert pour fusionner avec Sprint. Londres dévoile son système d'immigration post-Brexit, un moment historique qui met fin à la libre circulation, souligne le gouvernement britannique. Un nouveau système d'immigration à point, privilégiant selon les termes utilisés les brillants cerveaux au détriment des travailleurs peu qualifiés. L'Union européenne, elle, veut peser dans la course à l'intelligence artificielle. Bruxelles détaille aujourd'hui sa stratégie pour l'intelligence artificielle décidée à exister entre les géants américains et chinois. Elle entend encadrer les usages à risque, notamment en matière de reconnaissance faciale. Une conférence de financement mal engagée en France avec la CGT, hein, qui veut désormais sa conférence alternative, estimant qu'un compromis est impossible avec l'exécutif, dénonçant un même combat entre le MEDEF et le gouvernement. Ce dernier assure toutefois que la conférence telle qu'elle continuera. Enfin, Fessenheim et le décret entérinant l'arrêt des réacteurs publié au journal officiel. Fermeture dès samedi du réacteur numéro 1, le 30 juin pour le réacteur numéro 2. À 12h04 sur BFM Business, le CAC 40 qui progresse de 0,66% à 6096 points.
Merci Audrey, on vous retrouve bien sûr à 12h30 pour le rappel des titres. Tout de suite la question, comment transformer l'ENA, transformer la haute fonction publique. On en parle tout de suite avec Fabien Taster.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Fabien Tasset, bonjour, rebonjour.
Bonjour Edith Chevrillon.
Merci d'être avec nous. On va rappeler que vous êtes président de l'Association des hauts fonctionnaires territoriaux. Donc il y a ce rapport qu'on attendait, qui a été repoussé. Alors il faut dire qu'il y avait tout le débat autour de faut-il supprimer, faut-il renoncer, faut-il transformer l'ENA, une espèce de sujet qui est devenu plus politique que managérial. Et puis donc ça y est, il est arrivé ce fameux rapport de Frédéric Thériez avec 42 propositions. Ouais. Et là encore, on se dit qu'il y a pas mal. Il y a pas mal de bonnes choses, in fine. C'est plutôt une bonne surprise. L'ENA n'est pas supprimée, mais transformée en une école de haute administration. Donc ça, ça devait vous faire plaisir. Et puis, il y a plus de mixité. Globalement, un avis, Fabien Testet ?
Alors, je vais revenir sur l'ENA, parce que souvent, l'ENA, c'est, ça fait un peu figure de tête de gondole.
Ah bah oui, bah
réforme. On parle de l'ENA, parce que c'est la façon d'accrocher un peu l'opinion publique à cette réforme. Mais c'est loin d'être le sujet le plus essentiel, j'ai envie de dire. Mais en effet, Frédéric Thiry a remis son rapport. Nous, on a beaucoup travaillé avec lui, parce que il a pris beaucoup de coups, Frédéric Thiry, dans la période. Moi, je voudrais quand même rendre hommage à son travail. Il a, en 9 mois, fait un travail que d'autres auraient fait en 2 ans. Il nous a consultés. Je l'ai vu à plusieurs reprises. Je l'ai vu aussi avec mon collègue président de l'Association des anciens élèves de l'ENA et de l'Association des directeurs d'hôpitaux, parce qu'on a voulu faire une démarche commune des fonctionnaires de toute la haute fonction publique. Voilà, il a reçu 150 contributions. Et c'était difficile de passer entre les gouttes, hein, finalement, entre ceux qui expliquent que circuler, il n'y a rien à voir et qu'il ne faut surtout pas toucher le modèle de haute fonction publique française et qui, de ce point de vue-là, à mon avis, font une erreur parce qu'ils accréditent l'idée d'une sorte de pouvoir technocratique qui serait intouchable. Et puis, il a dû subir aussi l'écueil de ceux qui expliquent que là, on a une occasion de, comment dire, passer au fil de l'épée tous les hauts fonctionnaires français, que tous ces gens sont responsables de tous les maux de la société, etc. Donc la tâche, c'était pas facile. Et je trouve, vous l'avez dit, qu'il remet un rapport riche, dense. Il y a beaucoup de matière, il y a des pistes innovantes, audacieuses, que personne n'avait formulées avant lui. Donc voilà, c'est un bon travail, mais ça n'est qu'une première étape, puisque vous savez que maintenant, le gouvernement se saisit de ses propositions et se donne, si j'en crois les déclarations d'Édouard Philippe, à peu près 2 mois pour prendre des décisions. Voilà, donc nous, on va continuer évidemment notre travail de conviction maintenant auprès du gouvernement.
Quel est le vrai problème pour vous ? C'est que la France est bloquée, que vous bloquez toute réforme, vous les hauts fonctionnaires ?
Alors, vous avez raison, c'est pas du tout un sujet technique qui concerne quelques happy few. C'est un vrai sujet politique, la réforme de la haute fonction publique. Que disent les Français ? Les hauts fonctionnaires ne nous ressemblent pas. Ils relèvent d'une catégorie sociale supérieure, ils sont tous parisiens, franciliens, ils ne nous ressemblent pas. 2, ils ne connaissent pas le terrain. C'est pas des gens qui sont dans le
conseil. Pour l'instant, on approuve.
Voilà. Et 3, c'est le constat. Oui. A priori, qu'au fond, les Français. Et 3, ils travaillent pas ensemble. Il y a 3 sphères de l'action publique, l'hôpital, les collectivités locales, l'État, et ils sont tout le temps en bisbille, ça n'avance pas. Alors, OK, ils font de la politique, mais enfin, il faudrait quand même que ces 3 sphères de l'action publique travaillent ensemble. Et à ces 3 questions, qui sont effectivement 3 questions fondamentales, 3 questions qui ont émergé maintenant depuis quelques mois dans le pays, on l'a vu, et 3 questions éminemment politiques, eh bien, par rapport à ces 3 questions-là, le rapport Thiry met des pistes sur la table. Donc, c'est ça qui est intéressant. Premier sujet, par exemple. Peut-être le plus important d'ailleurs, l'égalité des chances, parce que ce pays, il est aussi bâti sur une promesse républicaine que
de l'ascenseur social, mais on sait bien que
enfant du 7e arrondissement ou enfant dans le Gers, on peut accéder à des emplois dans l'autre fonction publique.
Enfant de prof ou pas,
on sait que c'est pas la réalité.
Enfant de fonctionnaire,
on sait que c'est pas la réalité aujourd'hui. Mais le rapport Thiry met des pistes intéressantes sur la table. Par exemple, cette idée, nous, on le lui a proposé de passer la vitesse supérieure sur les classes préparatoires intégrées. Les classes préparatoires intégrées, c'est quoi ? C'est des classes dans lesquelles vous recrutez sur critères sociaux. Donc vous allez recruter des enfants de catégories défavorisées, des enfants de la ruralité, des enfants de la France périphérique. Vous les recrutez sur critères sociaux et vous essayez de les amener au niveau du concours, des concours de la haute fonction publique. Aujourd'hui en France, il y en a 8 et on prépare 130 élèves par an. Et la proposition de Frédéric Thiry, c'est de passer à 20 et de préparer à peu près 400 élèves par an.
Alors, est-ce que ça va dans ce sens-là ou est-ce que c'est un peu le coup de la princesse de Clèves avec Nicolas Sarkozy, on s'en souvient, le fait de supprimer, notamment c'est à l'ENA, ce concours de culture générale ?
Ben, je crois que l'idée,
c'est une bonne chose ou en même temps, ben, voilà, il y a un moment, il faut quand même de la culture générale, quoi.
Oui, mais
si la culture
générale.
On connaît pas la princesse de Clèves, on a un problème.
Ok, mais elle est vérifiée avant, la culture générale, souvent. Elle est vérifiée dans un.
De moins en moins.
Elle est vérifiée dans un parcours. Quand vous êtes candidat pour être élève à l'ENA, élève à l'INET, qui est l'école des hauts fonctionnaires territoriaux, vous avez un parcours derrière vous. On a déjà vérifié un certain nombre de compétences. Donc l'idée aussi, c'est de pas concevoir des matières qui seraient disqualifiantes pour certains de nos concitoyens. Mais vous savez, en même temps, moi je suis pour que tout le monde passe le même concours. Ça, c'est important. C'est-à-dire, on peut avoir des dispositifs qui vont chercher des jeunes qui sont a priori éloignés de la haute fonction publique, qui n'auraient même jamais l'idée qu'ils peuvent réussir un concours de la haute fonction publique. On peut, par ce dispositif de classe préparatoire intégrée renforcée que propose Frédéric Thiry, les amener au niveau du concours. Mais je crois vraiment qu'il faut qu'ils passent le même concours que les autres. Moi, je tutore un certain nombre de ces jeunes qui viennent de quartiers difficiles et ils veulent passer le même concours que les autres. Simplement, il faut qu'on les mette dans des dispositions qui qui font l'égalité des armes, qui évidemment n'existe pas naturellement.
Alors sinon, parmi ces 42 propositions, il y a aussi un autre aspect, donc c'est de transformer l'école nationale d'administration en école de, en EMA, l'école de management de la haute fonction publique. J'ai envie de dire, c'était le point de départ de l'ENA, la création au départ, ça a toujours été pour la haute fonction publique, c'est qu'après qu'ils ont squatté toutes les grandes entreprises.
Oui, alors, je vous disais tout à l'heure que pour moi, c'est pas le sujet majeur, on va en parler, hein, bien sûr, j'ai lu pas la question, c'est pas le sujet majeur.
Oui, mais c'est
majeur,
un sujet quand même, c'est un sujet.
Oui, mais je trouve qu'on coupe un peu les cheveux en quatre dans cette affaire. Parce que dit Frédéric Thirier ? Il dit, les hauts fonctionnaires, il faut les former, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. On se réveille pas et on s'improvise pas aux fonctionnaires.
C'est clair.
Donc il faut les former, donc il faut des écoles. L'ENA qui forme les hauts fonctionnaires d'État, l'INET qui forme les hauts fonctionnaires territoriaux, etc. Cette école, elle a sans doute des imperfections, c'est vrai. Mais alors, que fait-on ? On change le nom. On dit, alors, on garde une école, donc, mais on ne l'appelle plus ENA. On lui donne un nouveau nom. Mais quand même, comme la marque de l'ENA est connue à l'étranger, on garde pour partie le nom ENA. Donc à la fin, moi je trouve qu'on n'y comprend plus rien. On a une école, ne nous embêtons pas avec les noms, c'est pas une affaire de sémantique, gardons le même nom et faisons évoluer cette école pour qu'elle soit plus performante,
là,
comme les autres d'ailleurs.
Là vous faites pas de la politique, là vous
non,
faites
non,
du pragmatisme,
mais
vous avez raison, évidemment.
Je dis simplement qu'on va pas passer 20 minutes à débattre de la sémantique alors que le fond du sujet c'est quoi ? On a deux bonnes écoles de formation initiale des hauts fonctionnaires, parce qu'il y en a plusieurs, comme vous le savez, il y a l'ENA et les autres, il faut évidemment les faire évoluer, regardons ce qui peut améliorer les choses. Moi il y a un point qui est important, il y a deux points qui sont importants, je pense. C'est un, il faut que ces écoles, elles forment des hauts fonctionnaires opérationnels. Thirier fait un certain nombre de propositions sur ce sujet. Vous avez vu, il y a un tronc commun avec 4 mois en stage pratique, en formation continue. Il y a aussi un certain nombre de propositions. Il faut que les hauts fonctionnaires qui sortent des écoles soient plus opérationnels qu'ils ne le sont aujourd'hui. Les fonctionnaires territoriaux, le fonctionnaire territoriaux le sont plutôt. À l'État, c'est un peu moins vrai. Donc ça, il faut l'améliorer. Et le deuxième sujet, qui est pour moi essentiel, c'est il faut que ces écoles soient garantes, comment je pourrais le formuler, de la lutte contre la pensée unique. Parce que quand vous êtes un haut fonctionnaire, que vous conseillez un président de département, un ministre, quelle est votre responsabilité ? Et moi, c'est ce que j'explique aux jeunes qui veulent embrasser cette carrière. Un problème, au moins deux solutions. Votre responsabilité de haut fonctionnaire, vous ne décidez pas, vous conseillez l'élu qui décide. C'est toujours de lui proposer plusieurs solutions.
Oui, mais vous êtes fait dans...
De ne pas l'enfermer dans une solution qui traduirait une forme de pensée unique.
Très bien,
et ça, je pense que c'est cette garantie.
Vous avez raison, je pense que la France est en train de crever de ça. Non, je suis complètement d'accord avec vous. Moi, ma question, c'est, en même temps, vous êtes tous formatés de la même manière. C'est normal, je veux dire, on vous éduque comme ça. C'est, à la limite, presque nous, journalistes, on est quand même aussi... tout le monde est assez formaté.
Oui, mais ça n'est pas une fatalité, vous voyez.
Surtout quand on est à la tête de l'État, quoi.
Ça n'est pas une fatalité. On peut introduire dans les écoles, et c'est un peu ce que propose Frédéric Thirier en proposant que l'ENA devienne un établissement d'enseignement supérieur et de recherche, on peut introduire dans les écoles de formation initiale des hauts fonctionnaires une dimension universitaire, une dimension de recherche. Pourquoi ? Parce que l'université, la recherche de tout temps, depuis ce qu'on appelait la dispute médiévale, c'est un espace de confrontation d'idées, de discussion.
Alors,
Je trouverais bien, et je pense que Frédéric Thirier propose des choses en ce sens, que ces écoles améliorent leur contenu pédagogique, qui n'est déjà pas négligeable.
Ouais.
Elles ne font
rien
aujourd'hui. Mais l'améliorent
pour qu'on puisse confronter plusieurs visions du monde, plusieurs visions de l'économie. Si vous voulez bien répondre à ma question, la présidente du précédent jury de l'ENA, qui était absolument sidérée par la méconnaissance l'économie, de la matière économique de l'entreprise, de ses futurs hauts fonctionnaires. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut changer ? Vous considérez que ce n'est pas leur job ?
Si, bien sûr.
Vous qui êtes justement président, je le rappelle, de l'administration des hauts fonctionnaires.
Un haut fonctionnaire territorial, sous l'autorité d'un élu, il négocie tous les jours avec des entreprises l'implantation d'une grande société dans une zone d'activité, avec de la création d'activités, de la création d'emplois. Donc bien sûr qu'il faut connaître ces matières. Mais je redis qu'il ne faut
pas
les...
Pourquoi c'est si mal enseigné ?
Non, je pense que ça...
Enfin, c'est ce qu'elle a dit. Je veux dire,
oui,
mais
chaque jury, évidemment, distribue ses points positifs et ses points négatifs. Elle a aussi dit qu'elle a aussi constaté qu'il y avait 11% d'enfants, d'employés et d'ouvriers qui réussissaient le concours, alors qu'il y en a 50% dans la société française. Et là, pour le coup, c'est un point qui est absolument objectif. Donc oui, je pense qu'il faut faire évoluer les contenus, qu'il faut renforcer la connaissance du monde, la connaissance des matières essentielles, mais encore une fois, pas selon une approche univoque, ce qui est important. Il y a plusieurs façons de penser l'économie, et vous l'expliquez très bien ici.
Oui.
Il y a plusieurs façons de penser la société.
Suppression, transformation de l'Inspection générale des finances, de l'IGF.
Alors, là, c'est un,
c'est là,
un
c'est pan
de proposition qui était attendu. C'est un pan de proposition qui était attendu. Le président de la République en avait lui-même parlé. Que fait-on des grands corps? Alors l'idée, moi, qui est plutôt intéressante, c'est de dire que avant d'accéder aux grands corps, aujourd'hui, vous savez comment ça se passe. Les grands corps, vous y accédez en sortant.
Il y a le Conseil d'État, le Conseil des Finances, le Conseil des Comptes, l'IGAE, etc. Oui.
C'est l'IGF. Vous y accédez directement. D'où la critique que certains diffusent et qui consiste à dire, alors regardez, c'est aux fonctionnaires, ils sortent de l'école et puis tout de suite, ils sont dans des fonctions éminentes qui donnent accès aux plus grandes responsabilités de la République,
donc,
qui permettent d'aller au privé, qui jugent, qui rendent des avis, etc. Donc moi, je trouve que c'est plutôt bien.
De comme le propose le
Non, ce que propose le rapport, c'est une sorte de sas d'opérationnalité avant d'accéder au grand corps. En gros, alors il y a des modalités différentes, mais l'esprit est celui-là. Vous sortez de l'ENA et vous faites 4 ans dans du service public opérationnel. En gros, vous mettez les mains dans le cambouis avant d'accéder éventuellement à la Cour des comptes, au Conseil d'État et à l'IGF. Mmh. Et donc, c'est cette idée qu'il faut remettre du concret, de l'opérationnel dans la formation, dans le déroulement de carrière des hauts fonctionnaires. Et ça, c'est plutôt une bonne idée.
D'accord. Et sur la suppression des classements, mais tout n'est pas tranché. On va rappeler, c'est un rapport remis au Premier ministre et c'est eux.
On est loin de la fin du fil.
À mon avis, c'est plutôt le président qui va trancher. Voilà. Enfin, ça, c'est un autre registre.
C'est un autre débat.
Qu'est-ce qui. Suppression des corps.
On est loin de la fin du film, suppression du classement, disiez, ben c'est un peu lié avec cette idée que d'abord, tout le monde fait du service public opérationnel et ensuite, éventuellement, les grands corps choisissent leur nouvelle recrue. Donc, encore une fois, ce qui est important, c'est qu'il y ait cette étape de service public opérationnel où on met les mains dans le cambouis avant d'accéder aux grands corps. Et vous avez vu que la suppression des grands corps, et Frédéric Thirier le dit très bien dans son rapport, elle se heurte aussi à des principes constitutionnels. Les membres du Conseil d'État et les membres de la Cour des comptes sont des magistrats. Donc, de ce point de vue-là, le projet de suppression est pas possible. Mais introduire ce sas intermédiaire entre les grands corps et la sortie de l'ENA me paraît être une bonne chose.
Eh ben voilà, vous applaudissez quand même quelque part à ce rapport de Frédéric
Thirier. Il y a de la matière, il y a de quoi faire, il y a de quoi maintenant aller discuter avec le gouvernement.
Oh, absolument, puis vous avez 2 mois pour attendre les solutions. Merci beaucoup Fabien Tastet. Donc le président de l'Association des hauts fonctionnaires territoriaux était notre invité. Dans un instant, on change complètement de registre musical, puisque je reçois Marc Tonon, il est directeur général de Bureau Export qui s'occupe de l'exportation de la musique française à l'étranger. Et puis il y a pas mal de femmes quand même, on voit ça dans un instant.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, c'est Marc Tonon. Il est directeur général du Bureau Export. Bonjour, merci d'être avec nous, Marc Tonon. Bureau Export, ça s'occupe de... En fait, ça s'occupe de musique.
Bureau Export, de la musique. On a conservé la marque Bureau Export, mais c'est une initiative française. C'est le premier bureau qui a été créé à l'initiative des pouvoirs publics et des professionnels de la filière, il y a plus de 25 ans. Et qui accompagne les producteurs, les artistes, les producteurs de disques, de spectacles, les éditeurs de musique dans leur carrière à l'export des artistes signés en France. Pas uniquement des artistes français, mais ceux qui sont signés par des
structures. C'est un peu, il y a Unifrance pour le cinéma,
exactement.
Le cinéma français. Là, c'est pour la musique française. Et là, si vous êtes là, c'est qu'en fait, on a vu que grâce au streaming, la musique retrouvait complètement des couleurs. Il y a l'introduction en bourse d'Universal Music. Et puis, et bien, le bilan de l'année 2019 qui montre que la musique française s'exporte très bien. Et record historique.
Exceptionnel. Ce à quoi on assiste, c'est qu'en fait, les artistes français, chaque année, on publie 2 indicateurs. D'une part, un indicateur économique qui sera publié en juin, et puis celui qu'on a publié il y a 15 jours, qui est un palmarès export, qui recense à la fois les artistes qui se sont produits le plus de fois dans les plus grosses salles un peu partout dans le monde, et puis les artistes qui ont le plus vendu. Alors, ce ne sont plus des disques, évidemment, aujourd'hui, ce sont des paliers, disques d'or équivalents, etc., mais en équivalent streaming.
Alors, si on essaie de faire, parce que moi, j'adore toujours ça, d'abord, qu'est-ce qui a vendu le plus de disques? Quel est le français qui a vendu le plus de disques?
Le français est une française. Et d'ailleurs, les 3 premiers du classement sont des Françaises, sont des demoiselles. Aya Nakamura, qui a une particularité assez extraordinaire. Elle était la première Française numéro 1 en Hollande depuis Edith Piaf en 64, ce qui est assez exceptionnel. Ensuite, vous avez Angèle. Alors, petite particularité, Angèle est belge, signée en France. Donc, dans l'export interviennent les ventes qui sont réalisées en Belgique. Donc, c'est un petit peu en trompe-l'œil, mais nul doute que Angèle, qui est à Bercy en ce moment, va réaliser une énorme carrière.
On l'a vu, la victoire de la musique.
Absolument.
Aussi, elle est incroyable.
Et puis la troisième, c'est Zaz, qui est une des valeurs sûres de l'export français. Ça fait plus de 10 ans. Moi, j'ai eu la chance de l'avoir à Madrid devant 10 000 madrilènes conquis qui écoutent en français Zaz chanter son répertoire. Je l'ai vu à Los Angeles également, devant un public qui est à la fois américain, russe également, pas mal d'immigrés. Donc c'est assez exceptionnel.
Comment vous expliquez que ce soit des femmes qu'on entend, je dirais, enfin non, on les entend quand même en France, mais on entend quand même beaucoup de Johnny Hallyday, de oui, chanteurs masculins,
oui, mais...
alors qu'on voit bien, ce sont les femmes pour l'instant qui...
Oui, mais la proposition artistique récente, féminine, est extrêmement forte.
Oui, oui.
Depuis Christine and the Queen, dont je rappelle qu'elle a fait la couverture de Time Magazine il y a 3 ans de cela, Jen, qui était notre championne il y a 2 ans, là, il y a nul doute qu'une Clara Luciani, par exemple, ou une Suzanne, qui a été nommée en révélation cette année, que j'ai vue à Berlin récemment, ce sont des artistes qui impriment, parce que la proposition artistique française et spécialement des femmes françaises est extrêmement forte et extrêmement originale par rapport à ce que proposent les Américains, les Anglais.
Qu'est-ce qu'ils sont les... comment on se situe? Parce que bon, on fait un cocorico, mais en l'occurrence c'est plutôt une poule. Mais qu'est-ce qui fait par rapport à des artistes britanniques? On est quand même bien en dessous. Quel est le niveau pour les filles?
On est très loin derrière,
pour
être honnête. Par contre, quelque chose s'est passé et qui est en train de grandir, de grossir. On peut retracer l'historique de l'export de la musique française. Alors, si on remonte à des grandes personnalités comme Aznavour, qui ont loué le Carnegie Hall dans les années 60, ensuite vous avez la World Music qui était signée en France, les Morricanté, ce genre d'artistes, et puis la vague électro avec Daft Punk, avec Air et compagnie, qui a donné espoir, qui a eu une double vertu, c'est-à-dire d'une part elle a donné espoir à des artistes français qui se sont dit, tiens, si Daft Punk peut obtenir un Grammy Award, pourquoi pas moi? Et par ailleurs, les pros internationaux ont, grâce...
Oui, mais il n'y a pas beaucoup de musique, il n'y a pas beaucoup de paroles. Donc, aimer que ça soit français...
Oui, ça dépend. Un groupe comme l'Impératrice, par exemple, qui est électro, mené par une demoiselle également, qui va se produire au Festival Coachella dans quelques semaines. Il y a un mélange. Effectivement, vous avez l'électro comme Polo & Pan. Mais aujourd'hui, en fait, la France est sur la carte du monde. Après les Américains qui, grâce au rock'n'roll dans les années 60, l'Angleterre qui, grâce aux Beatles, dans les années 60 également, et puis la Scandinavie, la Suède avec ABBA et l'Eurovision, bien la France est probablement le 4e pays, si on excepte peut-être la Corée, qui est en train d'arriver extrêmement rapidement avec la fameuse K-pop, ce groupe BTS qui a fait 2 stades de France. Mais il y a une vraie volonté, ça c'est, nous on le perçoit au bureau export, il y a une vraie volonté des artistes français de tout de suite s'engager et de prendre le risque et de prendre son courage de main pour affronter ce qu'implique le développement de l'export.
Le streaming, est-ce que ça change la donne quand même?
Complètement.
Entre Spotify, Deezer, qui est français. Donc,
complètement, pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, votre contenu, votre musique, elle est disponible partout dans le monde entier. Et qui plus est, vous avez accès à ce qu'on appelle les fameuses data, qui vous permettent d'analyser dans quel territoire vous avez un écho sur tel ou tel... Jean-Michel Jarre, par exemple, il y a 2 ans, s'est produit à Santiago de Chili. Pourquoi? Parce qu'il avait réalisé que Santiago était la 5e ville au monde où il avait le plus d'auditeurs. Il a appelé son agent américain, qui lui a sécurisé un concert là-bas. Et nous, quel que soit le genre de musique, y compris en classique, en jazz, en world music, en électro, en rap, etc., on a une génération d'artistes qui utilisent parfaitement ces réseaux sociaux et les informations qu'ils leur procurent.
Mais par exemple, vous parliez d'Angèle, elle vend combien à l'étranger?
Alors Angèle, pour l'instant, c'est quand même double platine. Hein, ça fait en millions. Alors je sais pas, la conversion, c'est plus de 250 000 albums vendus à l'étranger, ce qui est considérable quand même pour une artiste. Mais vous avez des Guetta, David Guetta, c'est 1,6 milliard. Donc la marge d'Angèle est quand même, c'est un premier album. Ouais. David Guetta, c'est une quinzaine d'années de carrière. Donc nul doute que ces artistes-là vont très rapidement accroître leur notoriété et réaliser des scores. Ce qui est extraordinaire dans le streaming aussi, c'est que le contenu n'est jamais mort. Zaz, par exemple, apparaît dans notre top cette année avec un album sorti en 2014. Parce que, sans arrêt, il conquiert de nouveaux territoires, de nouvelles personnes s'abonnent au streaming tous les jours. Donc, c'est un effet vertueux extraordinaire.
Les genres musicaux qui s'exportent le mieux, parce qu'on parlait d'Angel, on parlait, il y a même Pomme aussi qu'on a vu aux Victoires de la Musique.
Absolument.
Et qui est quand même exporte, qui va s'installer au Canada. Donc, on voit qu'il y a une volonté aussi de s'internationaliser de la part des chanteurs. Mais c'est un peu la French Touch.
Alors, l'électro, évidemment, pour les raisons que vous citiez, à la fois, ce sont des artistes, soit dont la musique instrumentale soit chantée en anglais, donc c'est plus facile, mais pas uniquement. L'urbain, la musique urbaine, des artistes comme Nino, comme Dajou, comme Gims, se produisent en Allemagne, comme PNL, qui était aux Victoires de la Musique également, sont des artistes qui ont un énorme retentissement dans tout un tas de pays.
Quand on regarde, c'est l'électronique, hein, je reprends vos données, dans genre musicaux, électronique 40%, urbaine 33%, le pop 15%, chanson française 10%, jazz 2%, musique classique quand même, un petit mot, parce que j'ai vu
absolument,
ça.
Absolument. On a la chance en France d'avoir ce qu'on appelle les grands ensembles, les ensembles...
Les arts fleurissants.
Les arts fleurissants, les siècles... Qui eux ont une spécificité, ils évoluent souvent dans le registre de la musique baroque et ils ont une manière d'interpréter le baroque comme aucun autre ensemble au monde ne peut le faire. Les arts flots par exemple sur les instruments d'époque. Les arts florissants sur les et ce sont des ensembles qui en Allemagne, en Angleterre mais aussi beaucoup en Asie réussissent des scores extraordinaires.
La difficulté parce que de ce classement, moi je trouve c'est que il y a des tas de classements. C'est effrayant, quoi. Chacun a son classement.
Ça vous explique.
Ses victoires.
Ça vous donne une petite idée de la complexité de notre travail d'accompagnement quotidien. Au Bureau Export, nous, on a une équipe de 30 personnes, 650 adhérents qui sont des structures qui évoluent dans tous les champs esthétiques, hein, du jazz au classique, en passant par l'électro, le rap, etc. Et puis, dans tous les métiers, ce sont à la fois des producteurs de spectacles, des agents, des producteurs de disques. Et on essaye de travailler, d'accompagner tout le monde. Alors, notre accompagnement, c'est offrir du conseil, c'est connaître les territoires et connaître les bons interlocuteurs, pouvoir aiguiller, et puis c'est aussi consacrer pas mal d'argent.
Ouais, donc c'est important les classements ou pas ?
Alors je pense que c'est...
Parce qu'il y a côté disque d'or, disque de platine,
Pour être très franc avec vous, je pense que s'il n'y avait pas de classement, peut-être ne nous inviteriez-vous pas.
Oui, c'est un bon point. Oui, il y a des chances.
Et donc ça permet de mettre en lumière, alors ça dit ce que ça dit, ça bouge tout le temps un classement, la photographie d'aujourd'hui. Mais par contre, c'est important aussi, ce qu'on constate nous également au Bureau Export, c'est que le classement par exemple du palmarès des spectacles, c'est un classement qu'on a construit avec les professionnels. On a dû le pondérer parce que on ne peut pas comparer les pommes et les poires. Une petite salle... Vous avez des artistes qui tournent, qui font énormément de dates dans des petites salles, des artistes font peu de dates dans des grands festivals. Donc on essaie de s'accorder avec les professionnels pour trouver une espèce de critères qui rassemblent tout le monde et qui permettent aussi de comprendre comment on peut améliorer. C'est le but en fait, hein, de ces classements, c'est échanger les bons procédés.
Échange de bons procédés, merci beaucoup Marc Tenon d'avoir été avec nous. Donc
merci.
Le Bureau Export qui défend et promeut la musique française et toutes les musiques, c'est ça qui est bien à l'étranger. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dans un instant, c'est Nicolas Collin, il est le président fondateur de The Family, vous savez cette société d'investissement qui a un écosystème presque, qui propulse les startups. Il est inspecteur des finances et il publie un contrat social pour l'âge entrepreneurial, on voit ça dans un instant.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, c'est Nicolas Collin. Il est le président fondateur de The Family. Merci encore une fois d'être avec nous, Nicolas Collin. Vous venez souvent, enfin pas souvent nous voir, mais vous venez voir souvent parce que The Family, on va quand même expliquer et rappeler en tous les cas, c'est vraiment une société d'investissement, mais c'est une famille qui cherche à développer un écosystème pour accompagner des start-upers pour qu'ils se développent. Vous avez combien actuellement d'élèves start-upers chez vous ?
On a à peu près 250 entreprises avec lesquelles on travaille. Après, la plupart d'entre elles sont très jeunes, encore toutes petites. Certaines sont beaucoup plus avancées et très prometteuses. Mais voilà, c'est ça l'ordre de grandeur.
Et vous publiez, on y reviendra bien sûr, un contrat social pour l'âge entrepreneurial chez Odile Jacob. J'ai envie de dire que c'est un petit peu intellectuel, mais ce qui est derrière, c'est intéressant, c'est de dire que la transformation numérique, ça transforme tout, y compris le lien social. Mmh. Et donc, il faut recréer un nouveau contrat providence, un peu comme il a existé dans l'ère industrielle. Et là, vous nous dites qu'il faut ça pour l'ère numérique. Une petite question, je disais tout à l'heure en teasing que vous êtes inspecteur des finances, Nicolas Collin, est-ce que vous trouvez qu'il faut supprimer l'ENA, il faut supprimer l'Inspection Générale des Finances? Qu'est-ce que vous pensez par rapport aux conclusions du rapport Thiriez?
Je pense qu'il y a beaucoup de choses à en dire, mais moi j'ai l'habitude de présenter l'Inspection des Finances dont je suis issu comme un service sur lequel peut s'appuyer le ministre des Finances quand il y a des sujets qui sont tellement compliqués, qui demandent tellement de travail que la plupart des agents publics sont trop occupés pour ça par leur tâche quotidienne. Et donc dans ce cas-là, on forme ce qu'on appelle une brigade d'inspecteurs des finances, voilà, qui creuse le sujet à fond, remet un rapport, etc. Je pense que dans la période actuelle, ce besoin de creuser les sujets à fond, d'expertise, de voir loin, de mettre des idées innovantes sur la table demeure. Après, la façon dont on remplit ce besoin, dont on répond à ce besoin, il y a beaucoup d'options sur la table.
La question, c'est la formation, c'est le fait que souvent les hauts fonctionnaires, ils ont, ce que disait du reste l'invité précédent, qu'il y a une pensée unique en fait, et c'est ça qu'on reproche du reste aux hauts fonctionnaires français qui bloquent toutes les réformes, etc. Vous êtes basculé, un des rares, je dirais, inspecteur des finances, a fait le choix d'aller dans les start-up, dans les sociétés d'investissement, dans cette transformation numérique. Ça vous sert ou ça vous handicape?
D'avoir basculé, c'est...
D'avoir été formaté inspecteur des finances.
Non, je pense que l'idée de la pensée unique, elle est très familière, elle est documentée de plein de manières, mais quand on rencontre les individus, on s'aperçoit qu'aucun d'entre eux n'est pareil que les autres, et la plupart d'entre eux sont capables d'avoir des idées différentes, des idées innovantes. Ce qui crée la pensée unique, c'est le fait d'être tous enfermés dans une organisation très monolithique qui est l'administration de l'État, et qui est encore quand même très gouvernée par la politique à court terme, en quelque sorte. Et ça prive les individus qui sont à l'intérieur de la capacité d'innover.
L'autre actualité, merci de ces commentaires comme ça, mais c'est intéressant de voir parce que vous êtes un peu à cheval entre ces univers a priori contradictoires. Nicolas Collin, la Commission européenne, autre donnée importante, se lance dans la bataille de l'intelligence artificielle avec et dévoile aujourd'hui une série de mesures pour aider les entreprises européennes dans la guerre des données face au Facebook et autres. C'est un combat perdu d'avance et au contraire, c'est bien de se mobiliser. Qu'est-ce que vous pensez?
Alors non, c'est bien de se mobiliser. Je pense qu'on est encore dans un déficit de compréhension de ce qu'il faudrait faire exactement pour que l'Europe rattrape son retard, revienne dans la course sur ces questions d'économie numérique et en particulier d'intelligence artificielle. Ce qui manque, je pense, c'est que pour mettre en œuvre de l'innovation radicale, pour que les choses avancent vite et que tout le monde avance dans la même direction, il faut créer une sorte d'état de guerre, en quelque sorte. Il faut mettre sous tension l'ensemble de l'économie. Les États-Unis, ils sont dans un état de guerre permanent parce que c'est la première puissance mondiale. Ils portent sur leurs épaules l'ordre mondial. La Chine, ils sont dans un état de guerre contre le sous-développement. Tout le monde marche, c'est la marche forcée pour développer l'économie à toute vitesse et que la classe moyenne chinoise se développe. L'Europe, on ne sait pas trop très bien pourquoi contre quoi on est en guerre. Et donc ça empêche de focaliser les efforts, ça empêche d'aligner les intérêts des uns et des autres, et on peut mettre autant d'argent qu'on veut sur la table et proclamer qu'on veut rattraper notre retard dans l'intelligence artificielle. Tant qu'on n'a pas cette mise sous tension, il ne se passera pas grand-chose.
Alors justement, c'est que parmi les mesures, il y a la création de ce marché intérieur de données avec des règles claires sur l'accès et le partage. Est-ce qu'on peut fermer, je dirais, l'accès à des, je sais pas, des Américains, des Chinois, des données de sociétés européennes? Non, ça paraît un peu bizarre.
Alors, il y a deux débats là-dedans. Il y a le débat de principe et il y a le débat d'architecture logicielle. Donc, quand on interroge des ingénieurs là-dessus, ils vont vous expliquer toutes les raisons pour lesquelles c'est compliqué, c'est pas possible, parce que contingenter des serveurs, empêcher les flux de données à l'échelle d'un réseau ouvert comme Internet, c'est très compliqué. Sur les principes, cependant, si on prend la perspective de la politique industrielle, on agit toujours sur deux leviers quand on veut rattraper son retard dans un nouveau paradigme comme l'économie numérique. Le premier levier, c'est qu'il faut fermer un peu pour protéger les entreprises qui grandissent localement. Mais le deuxième levier, c'est qu'il faut mettre sous tension l'économie pour que ces entreprises grandissent effectivement et qu'elles ne se reposent pas sur leur laurier.
Mais il y a là donc le RGPD qui existe, ça, c'est pour les protections des données personnelles. Est-ce qu'on pourrait faire un RGPD pour les sociétés, pour les entreprises?
Oui, on peut.
C'est faisable, c'est un peu illusoire?
Un marché, ça n'existe jamais à l'état de nature. Si on a un marché des données, il faut l'équiper de règles, l'encadrer en quelque sorte pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Ça peut être de maximiser la valeur créée, ça peut être de protéger les droits des individus, ça peut être concilier ces différents objectifs. Encore une fois, il faut toujours se rappeler que les règles qu'on met en place ne suffisent pas à donner naissance à des entreprises qui ensuite grandissent et se développent à l'échelle globale. Il faut actionner le deuxième levier qui est de mettre sous tension l'économie pour que des entrepreneurs s'élancent, lèvent des fonds, créent des produits et fassent grandir leur activité.
Est-ce qu'il y a une forme de naïveté est-ce qu'il y a eu une forme de naïveté de la part des Européens, justement, par rapport aux géants du numérique, que maintenant il y a une prise de conscience, est-ce qu'elle est suffisante ou pas?
Moi, j'appellerais pas ça de la naïveté, j'appellerais ça une sorte d'indifférence. On s'est beaucoup reposé sur nos lauriers disant.
Ah oui, c'est de la naïveté, ça veut dire qu'on pensait qu'on était encore les meilleurs, quoi.
Oui, voilà, je pense qu'on pense encore en Europe, malheureusement, qu'on est à l'aise parce qu'on fait partie du club des pays les plus développés du monde, que tout va bien. La réalité, c'est que les dés sont jetés à nouveau, en quelque sorte. Les cartes sont redistribuées entre toutes les régions du monde. Et si on prend trop de temps à se lancer dans cette course, on aura du mal à rattraper le retard.
Justement, ça fait lien avec votre livre. Donc, votre livre, vous parlez de cette guerre numérique, transformation numérique, et puis les conséquences que ça a ensuite sur le contrat social, notamment pour les salariés. Il y a plein de questions, évidemment. Mais vous vous rappelez que, en préambule, que la guerre entre la Chine et les États-Unis, elle est là, elle est extrêmement violente, et donc ça bouscule toutes les données, toutes les cartes.
Oui, on est.
Et notamment au niveau européen, évidemment. Oui.
On est dans une période de transition. On quitte une économie, celle du XXe siècle, qui était dominée par des grandes entreprises industrielles comme Renault, dont on vient de parler à l'antenne. On rentre dans une nouvelle économie, l'économie numérique, qui va être dominée par des entreprises très différentes des entreprises industrielles du XXe siècle et qui va confronter les individus à des risques qui sont inédits, à des problèmes qui sont nouveaux. Et tout ça appelle la mise en place d'un nouveau contrat social. Et si on revient dans l'histoire, on s'aperçoit que c'est pas la première fois qu'on traverse une transition comme celle-là, déclenchée par une révolution technologique. Et chaque fois que ça s'est passé dans l'histoire, au XIXe siècle et au XXe siècle, il y a eu à chaque fois énormément de tensions, de frustrations. Parfois, ça a débouché sur le fascisme. Parfois, ça a débouché sur des conflits terribles. Et puis surtout, à chaque fois, il y a une redistribution des cartes entre des pays qui ont réussi à saisir la transition comme l'opportunité de se développer et de redistribuer les richesses créées, et puis d'autres pays qui sont restés arc-boutés sur les principes du monde ancien et qui ont refusé de rentrer dans le nouveau paradigme et qui du coup ont perdu du terrain et se sont enfoncés dans un retard de développement qui est devenu impossible à rattraper.
Alors Nicolas Collard, il y a quand même un point. Aujourd'hui, on est tous, ça facilite notre vie au quotidien parce que les smartphones, parce que ceci, Internet, ça bouscule tout, on est d'accord. Mais en même temps, ça fait très peur, cette transformation numérique. On voit qu'on n'en contrôle rien. Je veux dire, il y a l'affaire Griveaux qui nous démontre que même les personnes les plus intelligentes, entre guillemets, se font piéger absolument comme des grands naïfs.
Oui, moi j'ai l'habitude d'expliquer que dans cette transition, tout change. La production change, la consommation change, les entreprises changent, l'expérience du travail change, la vie en société, notre mode de vie tout entier, dans toutes ces dimensions, change. Et il y a des gens qui comprennent plus vite que les autres et qui apprennent à jouer de ces nouvelles opportunités mises à notre disposition par le numérique. Et puis il y en a d'autres qui sont un peu dans un entre-deux, c'est-à-dire un peu fascinés par le potentiel de tout ça, mais encore prisonniers de réflexes du monde ancien. Et ça, c'est la transition. La transition, elle s'accompagne de plein d'opportunités, mais aussi de plein de problèmes. Et c'est notre rôle à nous tous, les entreprises, les ménages et les pouvoirs publics, de bien comprendre tout ça et de faire ce qu'il faut pour accompagner cette transition, oui, et la faciliter.
Non, c'est sûr, mais en même temps, si vous dites ça, vous tenez ce genre de discours au patron d'Uber, au patron de Deliveroo, au patron de même de Facebook, avec notamment ceux qui doivent contrôler toutes les vidéos pour voir si elles sont dangereuses ou pas. Je veux dire, ils vont vous rironner, Nicolas Calin, non?
Non.
Oui, je veux dire, parce que pour eux, le contrat social, c'est un truc français, quoi.
Alors non, c'est pas un truc français. Non. C'est-à-dire, encore une fois, si on regarde ce qui s'est passé au XXe siècle, c'était quoi la révolution technologique du XXe siècle? C'est l'apparition de l'automobile. Ouais. Et avec l'apparition de l'automobile, est apparu aussi un nouveau secteur, qui était l'industrie automobile, qui a complètement révolutionné la façon de produire, avec les chaînes d'assemblage, etc.
Avec le taylorisme, en fait.
Évidemment, à l'époque, on allait voir les grands patrons, les premiers patrons de l'industrie automobile, on leur disait, écoutez, les chaînes d'assemblage, c'est un peu rude, vous faites travailler les ouvriers dans des conditions épouvantables pour des salaires
de
misère.
C'est
ce qui se passe de nouveau. Au début, comme vous dites, ils peuvent vous rire au nez ou ils peuvent vous claquer la porte au nez, refuser d'ouvrir les discussions sur ces sujets-là. Mais c'est pour ça que c'est important d'établir un rapport de force. Un rapport de force qui ne doit pas être fait pour revenir au monde ancien, mais qui doit être fait pour faciliter la transition vers le monde nouveau. Et ce rapport de force, il doit se faire en même temps qu'une compréhension fine, éclairée, de tous les problèmes nouveaux qu'on doit régler ensemble.
Au départ, dans votre livre, c'est-à-dire, à la limite, vous revenez un peu sur les fondements de cette transformation numérique en disant presque c'est quoi une entreprise numérique? Parce qu'aujourd'hui, on n'aurait peut-être pas dit ça il y a encore presque quelques mois, j'exagère, mais toute entreprise aujourd'hui est une entreprise numérique, ou du moins on le souhaite, parce que sinon ça veut dire que vraiment son avenir est assez menacé.
Alors, oui et non. C'est-à-dire, première chose à dire, c'est que on est une entreprise numérique, c'est pas une entreprise qui utilise des ordinateurs. Il y a plein d'entreprises qui ont des ordinateurs à tous les étages, mais qui ont rien de numérique, ni dans leur culture, ni dans leur organisation, ni dans les relations qu'elles entretiennent avec leurs clients, etc. Être une entreprise numérique, c'est s'emparer du numérique pour mettre au point un modèle qui tire le meilleur parti possible du nouveau paradigme. Ça veut pas dire que toutes les entreprises numériques seront numériques demain. De même que au XXe siècle, toutes les entreprises n'étaient pas des grandes entreprises industrielles. Mais c'est très important d'avoir ces entreprises numériques parce que c'est elles qui tirent l'ensemble de l'économie, c'est elles qui génèrent les rendements d'échelle les plus élevés, c'est elles qui créent le surplus de valeur que ensuite on se partage pour développer l'économie de façon inclusive et soutenable.
Oui, en même temps, vous-même, vous soulevez un peu la contradiction, parce qu'il y a un aspect collectif. Pour qu'il y ait un contrat social, il faut qu'il y ait un aspect collectif. Et de l'autre côté, c'est sûr que qui dit entreprise numérique parle de nomadisme, je reprends votre expression, d'instabilité, de vision du travail totalement différente. Oui. Donc c'est là où vous êtes un peu le grand écart.
Dans le livre, j'essaie d'expliquer ce que c'est ce contrat social dont on parle. C'est pas un contrat social abstrait, c'est un contrat social qui remplit des fonctions bien précises pour aider les entreprises et les ménages à faire face aux problèmes qu'elles rencontrent. Il y a trois grandes fonctions dans ce contrat social. La première, c'est qu'il faut couvrir les individus contre les risques. Si vous êtes exposé à un risque, on essaie de vous couvrir pour faire en sorte qu'il vous arrive pas malheur. Ou que si vous arrive malheur, vous êtes indemnisé, pris en charge, aidé, accompagné, etc. Deuxième fonction, c'est accéder au capital. Il y a plein d'occasions dans la vie où les ménages ont besoin d'accéder à du capital pour, dans le passé, c'était acheter une voiture, acheter une maison. Aujourd'hui, c'est probablement pour des choses très différentes. Et donc, il faut organiser cet accès au capital, faire en sorte que quiconque a besoin d'argent puisse aller à la banque et emprunter de l'argent pour l'investir, pour financer tout ce qu'il y a à financer. Et la troisième fonction, c'est aider les individus à s'organiser pour qu'ils puissent défendre collectivement leurs intérêts. Et ça, c'était fait dans le passé par les syndicats, tels qu'on les connaît, dans les branches professionnelles,
etc. C'est intéressant ce que vous dites du reste là-dessus.
Aujourd'hui, aider les individus à s'organiser, ça commence par comprendre qui sont les individus, quelles sont leurs aspirations, quelle est leur expérience du travail, à quels problèmes ils sont confrontés et quels outils ils disposent pour s'organiser ensemble. Et ça donne naissance à, on peut appeler ça des syndicats si on veut, mais des syndicats qui sont probablement très différents de ceux qu'on connaît aujourd'hui.
Ah oui, ça c'est sûr. Encore faut-il qu'il y ait une appétence. Vous voyez que je veux dire que celui qui travaille dans le numérique, les digital natives, comme on dit, les millennials, je ne suis pas sûr qu'ils aient envie d'être représentés par des syndicats même différents. Parce qu'il y a une forme de... Oui, c'est beaucoup plus des individus plus que le collectif qui compte.
Oui, alors moi, je suis pas tout à fait d'accord là-dessus. L'un de mes livres précédents s'appelait « L'âge de la multitude », qui a été publié en 2012 avec Henri Verdier. Et l'idée de la multitude, Henri et moi, on avait utilisé ce terme pour insister sur le fait qu'on parle d'individus qui sont tous différents les uns des autres, qui ne veulent pas être mis dans le même panier, qui ne veulent pas être considérés comme une masse, mais ils sont quand même connectés les uns aux autres pour échanger de l'information, s'aider les uns les autres, agir collectivement quand c'est nécessaire. Regardez les consommateurs qui vont sur Amazon échanger des avis sur les produits pour s'aider les uns les autres à prendre des meilleures décisions d'achat. C'est des gens qui sont très individualistes, ils veulent pas qu'on postule qu'ils se ressemblent tous les uns les autres, ils sont tous différents, mais quand on leur donne les moyens de s'aider les uns les autres en se connectant en réseau, ils le font. Et donc c'est ça les syndicats dont on parle, les syndicats du futur. Ouais. C'est des individus qui diront « moi j'ai ma vie, j'ai mes aspirations, j'ai un mode de vie auquel j'aspire qui est probablement différent de celui de mon voisin, mais ça ne nous empêche pas de nous connecter les uns aux autres en réseau et de mettre en commun des ressources pour atteindre nos objectifs. » Et c'est ça qu'on voit dans le monde des digital natives.
Oui, en même temps, vous prenez Amazon, pour ne pas le citer, donc je ne sais pas, vous avez vu encore qu'il est devenu le troisième grand groupe de distribution mondiale, avec la marque la plus chère, vous voyez, donc l'incroyable succès d'Amazon, et d'Elon Musk, mais en même temps... à titre individuel, tout le monde utilise Amazon, puis après on va dénoncer les conditions de travail dans ces entrepôts et en disant ça se relaie sur les réseaux sociaux avec des vidéos qui dénoncent ça. Donc c'est là aussi, il y a un côté complètement schizophrène.
Oui, alors c'est sûr qu'on est tous schizophrènes parce qu'on n'aime pas être maltraité quand on est au travail.
Ah oui, votre contrat social,
ensuite,
là,
on devient très exigeant quand on est consommateur. Oui. Je pense que le rapport de force qui est aujourd'hui très défavorable aux travailleurs, il s'explique par le fait que c'est plus facile pour les consommateurs de s'emparer des technologies numériques pour peser sur les entreprises et les obliger à nous servir toujours plus vite, toujours mieux, pour toujours moins cher. Les travailleurs, eux, d'abord, ils sont moins nombreux que les consommateurs, par définition. Et en plus, ils sont un peu enserrés dans ce cadre hérité du passé, qui est le droit du travail, qui leur dit, si vous voulez établir un rapport de force avec votre employeur, ça va se passer comme ça, c'est la négociation collective, telle que codifiée par le Code du travail, etc. Et si vous voulez mettre au point des techniques nouvelles de mobilisation qui s'appuient sur les outils nouveaux et qui sont en phase avec les modes de vie d'aujourd'hui et les parcours professionnels d'aujourd'hui, si ça ne rentre pas dans les cases, ben on ne peut pas vous aider. Et donc, sur un exemple comme celui-là, on voit pourquoi c'est si important de redéfinir le contrat social. Oui. Parce que si on dit aux gens, non, il faut que vous reveniez tous dans les vieilles cases et que vous soyez tous des travailleurs comme avant, ça ne marche pas parce que ce n'est pas leurs aspirations et ça ne rentre pas dans les cases.
Donc, on fait quoi, Nicolas Collin ?
Alors, on fait...
Concrètement.
Première chose, on n'attend pas que l'État résolve tout d'en haut, parce que c'est un problème tellement complexe qui part dans toutes les directions que c'est la société tout entière qui doit se mobiliser pour faire ça.
C'est important. Mais
la société ne nous attend même pas. C'est-à-dire quand vous allez sur le terrain, vous rencontrez des entrepreneurs qui identifient ces problèmes. Par exemple, dans le secteur des fintech, vous avez plein de startups qui ont identifié que les individus aujourd'hui ont du mal à accéder à du capital pour financer ce qu'ils ont à financer dans le mode de vie d'aujourd'hui. Donc, ils créent des nouveaux produits financiers pour aider les individus à accéder du capital, par exemple pour financer des congés sabbatiques, pour apprendre un nouveau métier, pour se reconvertir dans un nouveau secteur, etc. Ça, les banques le font pas, les start-up le font. On voit aussi des syndicats d'un genre nouveau qui s'organisent, qui mettent en réseau des travailleurs pour leur faire écho à leurs revendications. Bref, on voit plein d'initiatives sur le terrain. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? La première chose à faire, c'est qu'il faut se mettre à l'écoute de ces initiatives. Nous, on a la chance à The Family de travailler avec des entrepreneurs.
Oui, voilà,
donc on est aux premières loges.
Oui.
On observe cette innovation en mouvement au quotidien. Ce qui manque aujourd'hui, c'est la jonction entre ce qui se passe à petite échelle dans les efforts quotidiens d'innovation.
Oui, c'est ça, c'est ce que vous faites à The Family, que ça, après, voilà, ça devienne un vrai contrat social. Quoi.
Voilà. Oui. Mais nous, notre métier à The Family, c'est aussi de comprendre ce qui se passe sur le terrain en travaillant avec les entrepreneurs et d'essayer de le reformuler pour que ce soit compris en haut lieu par ceux qui ont la main sur les politiques publiques et qui peuvent commencer à infléchir la façon dont on organise la couverture des risques, la protection sociale, le système financier, l'accès au capital, la défense des intérêts, le syndicalisme, etc. Et aujourd'hui, ce pont, il n'existe pas vraiment. Non. Vous parlez aux dirigeants syndicaux qu'on a vu tout à l'heure discuter de réforme des retraites, vous parlez aux ministres, aux fonctionnaires, la plupart d'entre eux, c'est même pas qu'ils comprennent
c'est
pas, c'est qu'ils
se posent
même pas la
question. C'est pour ça que je souriais en vous écoutant, parce qu'on voit bien que là, vous essayez de réconcilier, de jeter un pont entre deux univers qui, je veux dire, qui pour l'instant s'ignorent complètement. Oui. Il y a des petits rapprochements, parce que c'est très à la mode de parler de la French Tech, etc. Mais pour l'instant, ça s'ignore complètement, quoi.
Oui. Donc, et d'ailleurs, on peut revenir à notre discussion du tout début sur la réforme de l'ENA. L'ENA, si on la réforme, ça devrait être aussi pour que la compréhension de tous ces sujets-là et la projection dans un avenir où on met en place des nouvelles institutions pour un monde nouveau fasse partie intégrante de la formation des hauts fonctionnaires.
Et tout à fait. Donc mais c'est là où c'est très ambitieux votre livre, parce que d'essayer de jeter ce pont entre ces deux univers, alors je dirais qui se rapprochent, on le voit un peu même au niveau européen, on en parlait là aussi, on voit les efforts qui sont faits par le président Macron, éventuellement par Bruno Le Maire pour ramener tout ça, mais il y a du boulot.
Il y a du boulot, et c'est pas l'affaire d'un seul ministre.
C'est
même pas l'affaire des seuls pouvoirs publics. Mmh. C'est quelque chose qui implique les intellectuels qui mettent des idées sur la table, qui implique les individus eux-mêmes qui se mobilisent et qui revendiquent, qui implique les entreprises qui acceptent de changer et les pouvoirs publics qui aident tout ce monde-là à avancer dans la même direction.
Un mot juste, qu'il nous reste 30 secondes. Je voulais vous poser une question sur le Brexit, parce que vous êtes à Londres, de famille, c'est à Londres et à Paris. Est-ce que pour vous, ça veut dire quoi? Vous allez basculer du côté de Paris, du côté de Brexit? Comment est-ce que vous voyez les choses? Pour vous, alors, et The Family?
Non, pour nous, le Brexit, c'est deux choses. C'était pendant la phase où le Brexit se déboucle, c'est beaucoup, beaucoup d'incertitudes et de frictions dans notre activité entre les deux pays. Ouais. Mais une fois que la poussière va retomber et que le Brexit va devenir plus clair, notre sentiment à nous, c'est que ça démultiplie l'importance de ce qu'on fait. C'est-à-dire, s'il y a des barrières qui s'érigent entre la France et le Royaume-Uni, c'est d'autant plus important d'avoir des entreprises comme la nôtre qui opèrent entre les deux pays et qui aident les entrepreneurs à tirer.
Constructeur de ponts, bâtisseur de ponts, Nicolas Collin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Un contrat social pour l'âge entrepreneurial, et c'est donc publié chez Odile Jacob. Voilà, c'est la fin de l'heure H. On se retrouve bien sûr demain, on se retrouve à 7h45 avec l'interview de Sébastien Bazin, le patron d'Accor, justement, qui est très digital, pas natif, mais enfin en tout cas il cherche à l'être. Et puis ensuite je recevrai Eric Woerth, qui est le président de la commission des finances à l'Assemblée nationale, réforme des retraites, puis peut-être un peu on parlera aussi de la Cour des comptes. À demain.